vais essayer de ne pas parler trop fort. Ça va? Super. Content de pouvoir étudier, continuer à étudier de Timothée cette lettre avec vous, chers amis. Et donc, je vous invite à garder ce passage sous les yeux de Timothée, chapitre 1, à partir du verset 15, jusqu'au chapitre 2, le verset 7. Quel conseil il faudrait donner, à votre avis, avant une mission super importante? Quel conseil donner avant une mission super importante, et même une mission super importante et périlleuse? Vous savez, des fois dans la vie, j'aimerais bien être une petite souris pour voir ce qui s'est dit à certains moments de l'histoire de l'humanité et entendre les conseils qui ont été donnés avant des missions super importantes. Par exemple, être une petite souris qui entendait ce qui se disait dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale avant de donner l'assaut. Qu'est-ce que le chef disait à ses soldats? Quel conseil est-ce qu'il leur donnait? Ou alors être une petite souris, pour donner un exemple plus contemporain, qui était dans la fusée SpaceX qui a décollé à la fin du mois d'avril, pour entendre qu'est-ce que les chefs disaient aux quatre astronautes qui allaient décoller pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. Quel conseil donner avant une mission super importante et périlleuse? C'est un peu comme si on était une petite souris qui avait accès à ça dans cette lettre de 2 Timothée. Parce qu'ici, on voit les conseils que Paul, l'apôtre Paul, donne à Timothée, son jeune protégé. Et Paul donne ces conseils alors qu'il est, dans un sens, au bout de sa vie. Il est sur le point de partir, c'est ses derniers conseils avant de quitter cette terre qu'il laisse à Timothée pour l'encourager. Et le fait de voir dans la lettre de 2 Timothée ce que Paul dit à Timothée, mais de voir de manière plus spécifique ce qu'il y a dans ce passage qu'on a ce matin sous les yeux, ça nous aide à comprendre à quoi ressemble le ministère chrétien. Et ça nous aide même à comprendre de manière plus large à quoi ressemble le service chrétien que chacun de nous on accomplit dans cette vie et dans l'Église. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Quel conseil recevoir pour cette mission super importante et périlleuse? Il y a deux choses qu'on va apprendre par rapport au service chrétien ce matin dans ce passage, que c'est un service courageux et un service qui doit être bien orienté. Le service chrétien est un service courageux et qui doit être bien orienté. Donc on commence, premièrement, c'est un service courageux dans les versets 15 à 18. Ces versets 15 à 18, donc du chapitre 1, c'est la fin du chapitre 1, et ils viennent juste après tout ce qu'on a vu la semaine dernière, où Paul avait donné plusieurs exhortations à Timothée de ne pas avoir honte, d'être prêt à souffrir, de mettre à profit tout ce qu'il avait reçu, toute la mission qui était là devant lui. Et dans ces versets, à la fin de ce chapitre 1, Paul va donner deux exemples. Un mauvais exemple et un bon exemple. Un mauvais exemple de personnes qui n'ont pas fait cela et un bon exemple de quelqu'un qui a fait cela et que Timothée pourrait imiter. Le mauvais exemple, on le voit dans le verset 15, où Paul écrit, chapitre 1, verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. » On sent beaucoup de lourdeur dans ce verset, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Deux personnes et beaucoup d'autres qui ont abandonné Paul. On n'a pas tous les détails ici, mais probablement ils ont abandonné Paul parce qu'ils ont eu honte. C'est des mauvais exemples de ce que Paul demande à Timothée de faire. On avait lu le verset 8 du chapitre 1. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. » Ils n'ont pas été prêts à faire ça. Et donc ils ont abandonné l'apôtre Paul. Oh, c'était probablement des gens qui étaient enthousiastes pour servir, qui étaient enthousiastes pour être aux côtés de l'apôtre Paul, pour être avec lui, mais des gens qui ont abandonné dès que la difficulté est venue. Des gens qui ont abandonné dès qu'il a fallu que ça coûte, dès qu'il a fallu payer. C'est des mauvais exemples de personnes qui s'engagent seulement si ça ne coûte pas trop. Et de voir ici, juste dans ces versets-là, dans ce contexte, ceci, ça nous aide à comprendre que le christianisme biblique n'a aucune place pour ceux qui veulent servir sans être prêts à souffrir. Pour ceux qui veulent s'engager sans être prêts à faire face aux difficultés qui viendront sur notre route. La foi chrétienne n'est pas comme une activité facultative, comme un hobby. Ah voilà, on a son travail, on a le sport, et puis ah bah tiens, il reste un peu de place dans ma vie, dans mon agenda, est-ce que je ne m'intéresserai pas à la foi chrétienne? Est-ce que je n'irai pas à l'église de temps en temps? Est-ce que je ne mettrai pas Jésus là où il y a de la place, dans mon agenda, comme un bouche-trou, comme quelqu'un pour combler les trous, une activité facultative en plus. Non, la foi chrétienne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau d'une vie qui est déjà bien remplie et bien occupée. Si on pense cela et si on vit comme cela, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est une question de vie et de mort. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui concerne l'éternité, qui concerne notre avenir éternel et l'avenir éternel des gens qui sont autour de nous. C'est quelque chose qui est bien plus important que notre confort personnel, qui est bien plus important que toutes les difficultés qui pourraient venir sur notre route. Et donc, c'est quelque chose dans lequel on s'engage, quoi qu'il en coûte. Deux exemples pour illustrer ça. Premier exemple, imaginez que cet après-midi, vous voulez, ou demain, ou un autre jour, vous voulez profiter de faire un petit footing, vous voulez aller courir pour faire quelques kilomètres. Donc vous vous préparez, vous mettez les habits, vous préparez votre smartphone sur Strava pour que tout le monde voit vos beaux exploits. Voilà, tout est prêt pour que vous puissiez aller courir. Vous êtes équipé, vous avez mis la meilleure playlist de musique pour courir. Vous sortez dehors, vous commencez à courir, et au moment où vous commencez à courir, il se met à pleuvoir. Il y a quelques gouttes qui tombent. Vous dites, ah ouais, mais il fait quand même un peu froid. Puis ça va être long, puis ça va être difficile. Et vous faites demi-tour et vous rentrez chez vous. Bah, ça, c'est pas si grave que ça. Vous avez tout à fait le droit. On pourra dire que vous n'êtes pas très courageux. Moi-même, je pense que j'aurais fait la même chose. Mais c'est pas si important que ça. Au final, que vous alliez courir ou que vous n'allez pas courir, ça va pas changer la face du monde. C'est pas si important que ça. Mais maintenant, un deuxième exemple. Imaginez que vous êtes médecin de guerre. Vous êtes dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Vous êtes au milieu du champ de bataille. Il y a des cadavres autour de vous, il y a des gens blessés. Il y a une situation qui est critique. Et là, il se met à pleuvoir. Là, il y a un grand orage qui éclate. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rentrez chez vous? Non, bien sûr que non. L'enjeu est trop grand, l'enjeu est trop important pour que ces petites difficultés vous arrêtent. Et c'est juste un exemple pour nous aider à réaliser que la foi chrétienne n'est pas comme un footing facultatif, où si on s'engage ou si on ne s'engage pas, ça ne va pas changer la face du monde. Non, c'est plutôt comme un sauvetage sur un champ de bataille. On s'y engage, quoi qu'il en coûte, parce que l'enjeu est trop grand, l'enjeu est trop important, c'est ce qu'il y a de plus important, même que notre confort personnel. Et c'est là où justement Onésiphore, dans ses versets, est un bon exemple de quelqu'un qui a fait cela. Paul le mentionne au verset 16, c'est quelqu'un qui est un bon exemple d'un service désintéressé et courageux. Verset 16 du chapitre 1, « Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. » Il faut savoir qu'à l'époque, les prisonniers dépendaient de leurs amis, d'autres personnes pour subvenir à leurs besoins. Et donc Paul était abandonné de tous. Mais Onésiphore était là pour le soutenir. Et Onésiphore n'a pas eu honte, ne s'est pas arrêté avec les difficultés pour chercher, pour trouver Paul. Regardez le verset 17. Au contraire, quand il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Il faut se souvenir, comme on l'a vu la semaine dernière, de la honte d'être associé à un prisonnier, d'être associé à l'apôtre Paul. Mais Onésiphore n'a pas été arrêté par cela. Il a cherché Paul, il a trouvé Paul, il l'a soutenu, il a été là pour lui. Et on voit que pour Onésiphore, pour lui, pour ce serviteur dévoué, courageux, ce qui comptait, ce n'était pas son confort personnel, ce n'était pas le regard des autres, ce que les autres allaient penser de lui, ce n'était pas ce que ça allait lui coûter, mais c'était le service qu'il pouvait accomplir pour le Seigneur. C'est ça qui était le plus important pour lui. Et il était même prêt à surmonter les barrières de la honte. Alors peut-être que ça nous paraît lointain de dire, voilà, d'avoir honte d'être associé à un prisonnier. Juste un petit exemple pour essayer de mettre ça dans notre contexte. Imaginez-vous qu'on est en 2040, Steve est toujours pasteur de cette église, oui, en 2040, sur la fin, en train de passer ça à un autre Timothée, on va dire. Mais Steve est mis en prison parce qu'il a prêché la vision biblique du mariage, l'engagement d'un homme et d'une femme pour la vie. Et il est pointé du doigt par tous les journaux. Il y a des scandales qui sont mis en avant parce que pour le monde à cette époque-là, c'est un discours qui est haineux et qui doit être condamné. Et donc Steve est mis en prison à cause de cela. Tout le monde en parle. Ça fait le buzz sur Internet, si Internet existe encore. Ça fait le buzz et tout le monde en parle et tout le monde pointe ça du doigt comme quelque chose vraiment d'intolérant, d'inadmissible, de condamnable. Et vous ? à la machine à café, au travail, alors que tout le monde en parle. Vous prenez la parole et vous dites « Non, non, mais c'est mon ami. Je suis d'accord avec lui. J'ai la même vision des choses. Il a bien fait, il avait raison. » Vous prenez une pancarte et vous allez devant le tribunal en disant « Steve, on te soutient ». Vous publiez un tweet, si Twitter existe encore, pour afficher publiquement votre soutien envers lui. Waouh ! Bah, quelle barrière de la honte il faudrait surmonter pour que vous vous associez à lui. Bah, c'est un peu ça que Onésiphore a fait. Il n'a pas eu honte. Il était prêt à tout pour servir, quoi qu'il en coûte. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'a pas juste dit « Ah, j'aimerais vraiment aider Paul, j'aimerais vraiment être avec lui, je suis avec lui de tout cœur, mais je ne sais pas où il est, et donc bah voilà, je m'arrête là, je ne peux pas l'aider plus que ça. » Non, en fait, on voit au verset 17 qu'il a cherché Paul avec beaucoup d'empressement, et il a trouvé Paul. Il avait une mission, il voulait trouver Paul, il voulait l'aider, il voulait le servir, et donc il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas mis des barrières d'excuses pour l'empêcher de faire cela. Il a été jusqu'au bout. Et de voir ça, ça me reprend. Parce que je ne sais pas vous, mais je pense qu'on a trop souvent des intentions de faire le bien, un désir de servir. Mais dès qu'il y a une toute petite barrière de la difficulté qui se met dans notre route, ben on prend ça comme une excuse pour ne rien faire et pour ne pas servir. On se dit « oui, oui, ce serait vraiment une bonne chose de prendre des nouvelles de cette personne, mais il faut que je prenne le temps de m'asseoir, d'écrire un message, de passer un coup de fil. Oui, oui, ce serait vraiment bien d'aider cette personne qui a besoin. » Mais je ne la connais pas trop. Qu'est-ce qu'elle va penser? Ah oui, oui, il y a cette tâche qui est à accomplir, mais ce serait super que quelqu'un le fasse. Je serais vraiment reconnaissant que quelqu'un le fasse. Et je pense que ça serait bien de le faire. Mais je ne suis pas prêt moi-même à retrousser mes manches pour le faire. Ah oui, oui, il y a un service à rendre, mais ça, ce n'est pas mon domaine, vous savez. Moi, je m'occupe de ça, je le fais, c'est très bien. Mais ne me demandez pas de faire autre chose qui n'est pas dans mon domaine. Ou alors, on est prêt à servir, mais que quand ça nous arrange. On ne veut pas faire ce que les autres nous demandent, on veut faire ce que nous on veut, quand on veut, avoir cette liberté, ne pas être dépendant des autres, ou alors que quand on le sent, quand on n'est pas fatigué. Ah mais si Onésiphore avait eu la même logique qu'on a souvent, qui traverse nos pensées, qui contrôle nos actes, s'il avait raisonné comme ça, Paul serait resté tout seul. En fait, si chacun dans l'Église raisonnait comme ça, il n'y aurait eu personne ce matin, ce dimanche, pour servir. Non, le service chrétien, c'est être prêt à servir là où le besoin se présente, avec un esprit de sacrifice. Et ici, ce n'est pas comme si le service était un poids qu'on avait sur nos épaules, quelque chose à faire parce que c'est ce que les chrétiens font, quelque chose à faire parce que c'est ce que le pasteur m'a demandé, donc je le fais même si je n'ai pas vraiment envie et je me force. Non, en fait, on voit que Onésiphore est un serviteur dévoué. Il a compris la valeur de la foi chrétienne et donc il veut faire tout ce qu'il peut pour participer à ce grand projet. Il veut faire tout ce qu'il peut pour servir. Il a compris que l'enjeu est trop grand. L'enjeu est tellement important. Il a le cœur placé au bon endroit. Il a les priorités placées au bon endroit. Et du coup, naturellement, dans sa vie, le service va avoir lieu et va prendre place. Et en lisant ces versets, en pensant à Onésiphore, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un frère de Paris, qui s'appelle, on va l'appeler Alberto, c'est vraiment un bon exemple de service chrétien. Il a une situation vraiment pas facile dans sa famille, personnellement, et pour d'autres raisons, vraiment pas facile. Mais il est toujours là pour encourager. Si vous le rencontrez, vraiment, vous ne pouvez pas passer un moment avec lui sans qu'il ait pour vous une parole d'encouragement, pour vous faire du bien, pour vous motiver, pour vous exhorter à continuer à avancer dans la vie chrétienne. Il s'implique dans son église, là où il peut. Il partage l'évangile avec ses amis, avec ses collègues au travail. Il n'est pas exceptionnellement doué dans un domaine ou dans l'autre, mais il est exceptionnellement dévoué. C'est un serviteur consacré. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, ah, lui, c'est un bon exemple. Comme Onésiphore et comme d'autres, où on peut les regarder et dire, ah, mais ah, voilà à quoi ressemble le service chrétien. C'est un service courageux. Mais deuxièmement, la deuxième chose qu'on apprend par rapport au service chrétien dans ce passage, et là on arrive au chapitre 2, les sept premiers versets du chapitre 2, c'est que c'est un service qui est bien orienté, qui doit être bien orienté. Et dans ce chapitre 2, Paul va donner plusieurs exhortations à Timothée pour orienter son service, pour orienter son ministère. On en voit quelques-unes dans ces sept premiers versets, il y en aura d'autres qu'on verra dans les semaines à venir, mais quelques éléments qu'on voit déjà dans ces sept premiers versets. La première orientation et la première chose que Paul dit à Timothée, c'est qu'il faut se fortifier dans la grâce. Au verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Jonathan a déjà cité ce verset, c'est un verset qui est vraiment précieux. Et en fait, c'est un verset qui est encadré par deux réalités tellement importantes qui donnent toute la puissance, la pertinence à ce verset. C'est encadré d'abord par le chapitre 1, tout ce que Paul a demandé à Timothée au chapitre 1, de ne pas avoir honte, d'être prêt à souffrir, tout son ministère qui va avoir lieu. Et il lui dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Pour faire tout ça, tu ne pourras pas y arriver sans la grâce. Tu ne pourras pas y arriver sans puiser dans cette grâce qui est en Jésus. Mais c'est aussi encadré par tout ce qui vient au chapitre 2. Et là, Paul, justement, va donner à Timothée l'orientation de son ministère, toute la tâche qui est devant lui. Et c'est un peu comme si Timothée avait une montagne devant lui. Voilà tout ce qu'il doit faire. Voilà un service pour lequel il se sent vraiment incapable. Mais pour accomplir cela, Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin d'être rafraîchi, équipé par cette grâce. Tu ne pourras pas y arriver sinon, si tu n'es pas équipé, nourri jour après jour par la grâce de Dieu en Jésus. Et c'est vraiment frappant là, parce que c'est comme si Paul ramène Timothée au béaba de la vie chrétienne. C'est vers Jésus qu'il faut regarder. C'est dans la grâce qu'il faut puiser. C'est là que tu pourras retrouver le renouvellement éternel. C'est un peu comme si on était dans cette fusée SpaceX et que le chef donnait ses ordres, ses conseils aux astronautes qui vont décoller, qui vont s'envoler pour la station spatiale dans l'espace et qu'il leur disait « Ah, mais les gars, n'oubliez pas, le kérosène, c'est important. » Le kérosène, c'est important. Je ne sais pas si les fusées roulent au kérosène, mais l'essence ou le truc qui permet de faire que la fusée décolle, c'est important. On dirait « Mais ouais, mais c'est évident, c'est des astronautes, ils ont fait des années d'études. » Oui, oui, mais si vous l'oubliez, il n'y a rien qui pourra marcher. C'est simple, mais c'est essentiel. Et c'est la même chose que Paul dit à Timothée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et en fait, littéralement ici, ce qu'il est dit, c'est « sois fortifié ». Je ne vais pas être compliqué là, mais c'est un passif. C'est tu dois être fortifié par cette grâce. C'est cette grâce qui va te fortifier, qui va te donner la puissance. Et c'est important parce que Paul, en faisant ça, montre ici que la force pour servir vient de l'extérieur, pas de l'intérieur. La force pour servir vient de Dieu et pas de nous-mêmes. Et ça va vraiment à l'encontre de tous les discours qu'on entend aujourd'hui. Où on entend plutôt « Ah, mais pour y arriver, crois en toi. La force pour y arriver est en toi. Tu dois trouver le secret qui est à l'intérieur de toi, qui est caché. Tu dois développer ton potentiel. Tu dois devenir une meilleure version de toi-même. C'est toi qui es la clé. Tout est centré sur nous. » Mais ce n'est pas ce que Paul dit ici. Non, la force pour continuer à avancer ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Elle ne se trouve pas à l'intérieur de nous-mêmes, mais elle vient de l'extérieur, la grâce qui a été manifestée en la personne de Jésus. J'imagine qu'à plusieurs moments de votre vie, vous vous retrouvez face à des services difficiles à accomplir pour le Seigneur dans l'Église, en dehors. Je pense à ceux qui doivent enseigner l'école du dimanche. J'imagine que chaque semaine que vous devez enseigner, vous dites « Mais comment est-ce que je vais faire pour y arriver ?» Il y a ce passage, il y a ces vérités tellement précieuses et je veux les enseigner à ces enfants qui en ont besoin. Mais comment transposer tout ça? Comment le faire de manière simple, de manière adaptée, de manière fidèle? Et c'est juste comme si vous aviez une montagne devant vous. Ou alors on doit partager l'évangile à un ami, à un collègue et on a peur. Il y a la barrière de la honte qui est devant nous. On se dit mais qu'est-ce qu'il va en penser? Ou alors on est face à une personne qui souffre et on doit l'aider. On se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Quelle parole d'encouragement, de consolation je pourrais avoir? Et c'est tellement de situations où on a une montagne qui est devant nous, où c'est des situations qui nous semblent impossibles, et on se dit, mais je ne suis pas capable. Et on a raison, on n'est pas capable. C'est une bonne chose de le reconnaître. La force pour y arriver ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de cette grâce qui est en Jésus. C'est cette grâce en Jésus qui va nous fortifier et nous permettre d'accomplir le service qui est devant nous. La grâce en Jésus-Christ, dans sa personne, dans le don de sa vie. On voit que Jésus ne meurt pas pour des innocents, pour des gens qui ont essayé de faire du bien, qui ont essayé de se rattraper. Non, Jésus meurt pour des coupables qu'il avait offensés, qui ne méritaient rien. C'est le don gratuit de sa vie. C'est là, à la croix, où Jésus donne sa vie, qu'on trouve la ressource pour continuer à avancer, un renouvellement éternel pour continuer à servir. Et peut-être que vous-même, vous passez par des moments particulièrement difficiles en ce moment. Vous dites, mais à quoi bon continuer à avancer? À quoi bon continuer à servir? Vous n'avez plus le courage, vous n'avez plus la force. Ce n'est pas juste qu'il y a une montagne devant vous, mais il y a juste une chaîne de montagnes. Vous dites, mais comment est-ce que je vais pouvoir y arriver? Il y a une source inépuisable de grâce. Il y a une source inépuisable de soutien. Et elle se trouve en Jésus. Regardez à la croix. Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a pardonné. Votre avenir éternel est assuré. Votre vie est entre ses bonnes mains. Voilà le soutien dont nous avons besoin pour avancer. Et donc avec ce fondement solide qui est placé, Paul peut continuer à exhorter Timothée. Et il va mettre en avant l'importance, dans le verset 2, de multiplier les serviteurs de l'Évangile. On voit au chapitre 2, le verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et on a ici une logique de multiplication. Ce n'est pas juste que Paul doit donner ça à Timothée et Timothée doit donner ça à quelqu'un, mais c'est que Paul, ce que Timothée a entendu de la part de Paul, Timothée doit le confier à des personnes capables qui vont eux-mêmes l'enseigner à d'autres, à plusieurs. Et donc c'est une logique de multiplication. C'est quelqu'un qui reçoit quelque chose qui l'enseigne à quelqu'un qui pourra lui-même l'enseigner à plusieurs pour que ce message et cet enseignement et ce rôle de serviteur de l'Évangile se répandent. Alors quel est cet enseignement dont il est question? On peut regarder le chapitre 1 pour voir cela où on avait vu les versets 13 et 14, je vais juste les relire, où Paul disait « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Cet enseignement qui doit être transmis, c'est le message des apôtres, c'est le dépôt biblique, c'est le vrai et le pur évangile. C'est un message tellement important qu'il ne doit pas se perdre. C'est un peu comme la recette de votre grand-mère pour faire les brownies. C'est tellement important que ça ne doit pas se perdre. En fait, ce n'est pas vraiment comme ça. C'est un peu plus comme un vaccin, la recette pour la formule pour un vaccin qui va sauver la vie à des millions de personnes. C'est tellement important que ça ne doit pas se perdre. Alors, à qui est-ce qu'il faut le transmettre? Dans ce verset 2, on voit qu'il faut le confier à des gens fidèles qui soient capables de transmettre à d'autres. Des gens fidèles. Fidèles. Des gens qui ne vont pas tordre le message, qui vont le garder tel quel, qui ne vont pas ajouter leurs propres idées. Comme si quelqu'un recevait la formule du vaccin et disait « Ah ouais, mais moi je vais peut-être mettre ça ». Et puis ça juste mettait en l'air toute l'efficacité de ce vaccin. Non, il faut des gens fidèles qui vont garder ce message tel quel. Et ça nous aide ici à comprendre que le christianisme n'est pas intéressé par la nouveauté. Dans ce monde dans lequel on vit, c'est ce qui est nouveau qui attire nos regards. Et ce qui est vieux paraît un peu démodé. Mais le christianisme n'est pas intéressé par la nouveauté. Ce n'est pas un message qui est nouveau, c'est un message qui est ancien. Le christianisme est intéressé par la fidélité au message ancien qui a été confié. Et dans ce contexte, c'est une fidélité qui va entraîner même la souffrance. Être fidèle à ce message, même si ça va coûter. Comme ça a coûté pour Paul, comme ça a coûté pour Onésiphore, comme ça va coûter pour nous. Être fidèle. Mais il faut aussi le confier à des gens qui soient capables de le transmettre à d'autres. Le christianisme, ce n'est pas justement comme un vaccin où ce serait une recette secrète qu'on garderait dans un coffre et qu'on ne voudrait pas partager, qu'on garderait juste pour une élite. Non, en fait, c'est un message qui doit être répandu à tous, qui doit être répandu au maximum. C'est des gens qui voient la valeur précieuse de ce message et qui se disent « mais je ne peux pas garder ça pour moi. C'est trop beau que ça doit être partagé. » Des gens fidèles qui soient capables de le transmettre à d'autres. Alors comment faire cela? Comment est-ce que ça va avoir lieu? Il faut dire que dans ce contexte de 2 Timothée, c'est avant tout ce qui est mis en avant, le rôle privilégié, primordial des pasteurs, des anciens, des gens comme Paul, comme Timothée, qui ont la charge de l'enseignement public dans l'Église. Ce que Paul veut, c'est que lui, il transmette à Timothée ces choses, ce rôle de serviteur de l'Évangile, et que Timothée le transmette à d'autres qui vont prendre sa place, qui vont pouvoir aussi aller annoncer l'Évangile, implanter des églises et enseigner ce message au sein de leur Église locale. Mais de manière plus large, c'est quelque chose qui nous concerne tous en tant que chrétiens. Parce que ce n'est pas comme si le ministère de l'Église était limité juste à ça, à un enseignement public, comme si l'Église était un prestataire de service. Voilà, les gens viennent, ils s'assoient le dimanche, ils reçoivent quelque chose et ils partent, et c'est fini. Non, ce n'est pas le cas d'abord parce qu'il y a un aspect public du ministère, oui, qui est important, avec des gens comme Timothée, comme Paul, dont on a besoin et qui enseignent la parole de manière publique, mais il y a aussi un aspect privé à ce ministère, où cette parole est partagée de manière privée et plus intime et plus ciblée. Dans les maisons, dans les balades, dans les jardins, dans les Zooms, alors que la Bible est ouverte entre chrétiens, alors que l'Évangile est au centre de nos discussions, alors que l'on cherche, que l'on vise l'édification mutuelle. Mais aussi parce que ce ministère public qui a lieu au sein de l'Église, ce n'est pas comme si c'était quelque chose qui était partagé pour que chacun de nous, on soit comme des vases clos, on reçoit quelque chose et on le garde pour nous. Non, c'est pour qu'on soit des porte-paroles et que ce que l'on a reçu, on puisse le transmettre à d'autres, qui vont eux-mêmes le transmettre à d'autres, et ainsi de suite. C'est le rôle de chaque chrétien dans l'Église de transmettre la foi, d'influencer les autres, d'avoir une vie qui est orientée pas vers moi-même, pas vers mes besoins, pas vers mes intérêts personnels, mais vers ceux des autres, qui va chercher à faire du bien, à faire grandir ceux qui sont dans l'Église. C'est la dynamique qu'on veut voir à l'œuvre des chrétiens qui aident d'autres à grandir. Et c'est là où chacun a un rôle à jouer, où chacun peut servir. Peut-être que vous vous dites, mais moi je suis trop âgé, je ne peux plus rien faire, je n'ai plus la force de venir le dimanche, j'ai accompli ma vie, qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Mais vous savez, nous les plus jeunes, on a besoin de vous les plus âgés. On a besoin que vous nous parliez du Seigneur, de sa fidélité, de sa bonté, de ce bel évangile dans lequel vous avez cru depuis votre jeunesse, qui vous a soutenu, qui vous a accompagné. On a besoin que vous vous investissiez dans notre vie. Peut-être que vous dites, mais avec la vie de famille, c'est juste pas possible. Vous pensez avec nostalgie au temps où vous aviez vraiment le temps à l'époque où vous aviez vraiment le temps de vous impliquer dans l'Église, de servir, et vous dites, mais je suis juste débordé, j'ai envie de servir, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de faire tout cela, mais comment le faire? Je suis juste dépassé, je suis juste débordé. Et vous pensez à l'époque, avec nostalgie, vous étiez célibataire, vous pouviez faire un peu ce que vous vouliez, quand vous vouliez. Vous pouviez partager l'Évangile avec vos amis. Vous dites, mais maintenant, c'est plus pour moi tout ça. Mais vous savez, si vous êtes parent, vous avez un vrai champ de mission à la maison. Vous avez des gens, des êtres humains avec qui vous vivez 24 heures sur 24, à qui vous pouvez transmettre la foi, à qui vous pouvez transmettre ce beau message, ce bel Évangile, pour qu'eux-mêmes, plus tard, puissent le transmettre à d'autres. Ce n'est pas une période perdue, ce n'est pas une période gâchée, bien au contraire. Alors si vous voulez creuser ce sujet, on a déjà parlé de ce livre, mais je me permets de dire un mot sur ce livre, Faire des disciples, de Mark Dever, qui est vraiment excellent, et qui montre comment mettre en pratique cette logique-là, ensemble, les uns envers les autres, dans l'Église. Et le titre induit un peu en erreur, ce serait plutôt « Former des disciples » qu'il faudrait traduire que « Faire des disciples », mais comment encourager les autres à grandir dans la vie de disciples pour la gloire de Dieu. Donc vous pouvez lire ce livre et il est disponible à 6 € à l'Église. Multipliez les serviteurs de l'Évangile. Et enfin, dernièrement, ce que Paul demande à Timothée pour avoir un ministère qui est bien orienté, un service bien orienté, c'est de se préparer à souffrir. Verset 3 du chapitre 2, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Ce n'est pas évident pour Timothée. Il voit Paul qui est en prison au bout de sa vie. Il voit la vie de Paul qui a été que épreuve sur épreuve, souffrance sur souffrance, persécution, difficulté. La vie de Paul est remplie de cicatrices, un peu comme un joueur de boxe après un match, remplie de coups. Timothée est au début de son ministère, il est tout frais. Et Paul lui dit, Timothée, c'est ça qui t'attend. C'est ça qui t'attend. La souffrance va arriver, sois préparé. Et c'est un peu comme pour un soldat, en fait. Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Un soldat ne peut pas se plaindre auprès de ses supérieurs que c'est trop difficile, que c'est trop dangereux. Non, c'est pour ça qu'il a signé. C'est juste l'essence même de ce qu'il accomplit. De la même manière, Paul dit à Timothée, « Timothée, c'est pour ça que tu as signé ». Et il y a 3 illustrations que Paul utilise pour parler de la souffrance, de cette souffrance qui attend Timothée. On voit le verset 4, « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qu'il a recruté. » Être un soldat, ça demande une consécration totale. On va pas payer ses factures sur le champ de bataille. On va pas regarder le score du PSG sur le champ de bataille. C'est pas le but, c'est une consécration totale où on met de côté des choses qui sont même légitimes pour un but plus grand, pour un objectif plus grand. Paul veut appeler Timothée à cette même consécration. Verset 5, l'athlète, métaphore de l'athlète, qui n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Être un athlète, ça demande de la discipline, de la souffrance pour se discipliner, pour respecter non seulement les règles du jeu, mais les règles aussi de l'entraînement, du contexte plus large, de comment est-ce qu'on est un athlète. Bah, ce n'est pas du jour au lendemain, on se réveille, on se dit « Ah tiens, je vais faire les JO ». Non, on doit s'entraîner, on doit se discipliner. Bah, cette même souffrance, cette même discipline attend Timothée et ceux qui veulent servir l'Évangile. Et enfin, la dernière illustration de Paul pour mettre en avant cette souffrance, c'est celle du cultivateur. Le cultivateur qui se donne de la peine, qui travaille dur, pardon, doit être le premier à récolter les fruits. Le cultivateur doit se lever tôt. Il se donne de la peine. Il doit travailler, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe le temps qu'il fait. Donc Paul dit à Timothée, ça va être dur. Le service chrétien est coûteux. Et on doit être conscient de cela. On doit être conscient de cela. J'imagine qu'on veut tous que notre Église grandisse en maturité. Que notre Église grandisse en connaissance de Dieu, en amour. On veut tous que l'Évangile progresse en Belgique, que plus d'églises soient implantées, qu'il y ait plus de chrétiens, que l'Évangile progresse dans le monde. Mais on doit réaliser, ça ne va pas se passer sans souffrance, ça ne va pas se passer sans difficulté, ça ne va pas se passer sans coûter. C'est pour ça qu'on a signé. Mais il faut se rappeler aussi ce qu'on a dit la semaine dernière, que ça vaut la peine. Au verset 6, le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Il y a une récolte, il y a une bonne nouvelle, il y a un encouragement. Verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Mais s'il lutte en respectant les règles, il sera couronné. Donc les souffrances auront une fin. Il y a un encouragement, pas tout est tout noir. C'est comme ça que Paul encourage Timothée, ici pour terminer. Et même dans cette souffrance, on réalise qu'on participe à un projet bien plus grand, est bien meilleur que tout. Le verset 7, pour conclure, c'est avec ça que Paul termine ses exhortations avant d'en donner d'autres. Comprends ce que je dis, pardon, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Paul appelle Timothée à réfléchir, à penser, à s'arrêter et à appliquer toutes ces images qu'il a données, tout ce qu'il a dit jusque-là, à sa propre vie. Réfléchis, Timothée, qu'est-ce que tout ça veut dire pour toi. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, chacun de nous. Qu'est-ce que tout ce qu'on a vu, veut dire pour moi? Comment est-ce que je peux appliquer ça à ma propre vie? C'est un peu comme si Paul disait à Timothée, voilà, on est dans les tranchées, l'assaut va être lancé, on est dans la fusée et elle va décoller. Est-ce que tu es prêt, Timothée? Est-ce que tu as pris le temps de t'arrêter et d'appliquer ces choses à ta vie, de voir ce que ça signifie pour toi? Est-ce que nous, on est prêts à s'engager dans ce projet qui nous dépasse, à s'engager dans cette mission super importante et périlleuse? À quoi ressemble notre service chrétien? Peut-être que c'est une occasion pour chacun de nous de prendre un temps d'arrêt cet après-midi, demain, un autre moment, pour s'examiner, pour voir notre propre vie, comment on peut continuer à faire ce que l'on fait, comment on peut progresser dans le bon chemin, et en se rappelant qu'on fait tout cela en dépendant de la grâce. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est cette grâce que Dieu nous a donnée, qui nous motive à nous engager et qui nous permettra de tenir jusqu'au bout. Je vais prier pour terminer. Oui, notre Dieu, on te remercie parce que on est prévenu que la foi chrétienne est quelque chose de super important. C'est une question de vie ou de mort. Que le service chrétien est quelque chose de super important et périlleux. Je te prie que tu nous aides, notre Dieu, à être conscients de cela, à être au clair sur ce qui nous attend, sur comment on devrait orienter notre vie, notre service. Et on te prie que tu nous aides à le faire en dépendant de toi, en dépendant de ta grâce manifestée en Jésus. On te prie que cette grâce, que ce que Christ a fait à la croix soit comme une source éternelle qui renouvelle nos cœurs, qui renouvelle nos motivations, nos désirs, nos intentions, pour qu'en tant qu'individu, en tant qu'Église, on puisse s'engager à ton service, on puisse vivre pour ta gloire. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen.